Ayant terminé le peu de remarques que j'avais à faire sur la constitution du pouvoir suprême, du pouvoir exécutif, judiciaire et militaire, et sur les rapports réciproques de ces établissements entre eux, je vais dire un mot du talent que ces législateurs ont montré à l'égard des revenus publics. Dans leur conduite à ce sujet, ils ont, s'il est possible, annoncé encore moins de jugements politiques et de ressources financières. Lorsqu'on a assemblé les États généraux, il semblait que le grand objet fût de perfectionner le système du revenu public, d'en étendre la recette, d'en supprimer tout ce qui était vexatoire et oppressif, et de l'établir sur le meilleur pied. L'Europe entière avait conçu les plus grandes espérances à cet égard. De cet arrangement important dépendait la chute ou l'élévation de la France. Quant à moi, je pensais, avec raison, que ce serait l'épreuve qui pourrait nous faire juger du savoir et du patriotisme des chefs de votre assemblée. Le revenu d'un État est l'État lui-même. Dans le fait, tout en dépend, soit pour son soutien, soit pour sa réforme. La dignité de chaque fonction dépend totalement de l'étendue ou de la nature de la vertu qu'elle développe. Comme toutes les grandes qualités de l'esprit qui opèrent dans l'ordre public et qui ne sont pas purement subordonnées et passives, ont besoin de force pour se déployer, j'allais presque dire pour leur existence non équivoque, le revenu public, qui est la source de toute force, devient aussi en administration la sphère d'autorité des vertus publiques. Les vertus publiques étant d'une nature sublime et élevée, destinées à de grandes choses et occupées de grands intérêts, elles ont besoin d'espace et de liberté, et elles ne peuvent se répandre et grandir sous le poids des entraves ni dans des positions rétrécies, bornées et avilissantes. Ce n'est donc qu'à l'aide du revenu public seul que le corps politique peut agir dans son véritable génie et dans son véritable caractère. Et, par conséquent, il déploiera autant de sa vertu collective et autant de cette vertu qui peut caractériser ceux qui le mettent en action et qui en sont comme la vie et le principe dirigeant. Autant, dis-je, qu'il possédera de ce juste revenu public. Car de là, non seulement la magnanimité, la libéralité, la bienfaisance, la force, la prévoyance et la protection tutélaire pour tous les arts utiles tirent leur substance et leur développement. Mais la continence, le désintéressement, le travail, la vigilance, la frugalité et toutes les autres vertus dans lesquelles l'esprit se montre supérieur à l'ambition ne sont nulle part mieux dans l'élément qui leur convient que dans le fond et la distribution du revenu public. Ce n'est donc pas sans raison que la science de la finance théorique et pratique, qui doit appeler à son aide tant de branches auxiliaires de connaissances, occupe un rang élevé, non seulement dans l'esprit des hommes ordinaires, mais même dans celui des meilleurs et des plus sages. Et comme cette science s'est agrandie dans la proportion de l'accroissement de son objet, la prospérité et la fortune des nations se sont accrues aussi avec l'augmentation de leurs revenus, et l'un et l'autre continueront à s'accroître et à fleurir autant et aussi longtemps que la balance entre ce qui est laissé pour encourager les efforts des individus et ce qui est levé pour les efforts ordinaires de l'État portera à l'un et à l'autre une proportion convenable et réciproque, et qu'ils seront tenus dans une relation et une communication constante. Et peut-être n'est-ce qu'à la grandeur des revenus et à l'urgence des besoins de l'État que l'on doit la découverte des vieux abus dans l'administration des finances et la connaissance plus parfaite que l'on a acquise de leur véritable théorie. En sorte qu'il serait possible qu'un moindre revenu fût une chose plus fâcheuse à une époque qu'un plus grand ne l'aurait été à une autre, la richesse proportionnelle de l'État demeurant cependant la même. Dans cet état des choses, l'Assemblée nationale trouva dans ses revenus des parties à conserver, d'autres à protéger et à administrer avec sagesse, d'autres aussi qu'il fallait abroger et détruire. Je me bornerai à considérer quels sont les devoirs les plus simples qui se présentent à l'esprit d'un financier ordinaire. Et dans la recherche que je vais faire de leur habileté financière, je terminerai là mes essais. Je ne m'élèverai pas jusqu'au modèle d'une perfection idéale, quoique leur présomption orgueilleuse soit bien propre à justifier des épreuves plus sévères. Les devoirs d'un financier sont donc de s'assurer un ample revenu, de l'obtenir par des impôts justes et également répartis, d'en faire un emploi économe, et lorsque les besoins publics l'obligent à faire usage du crédit, d'en assurer les bases, dans cette occasion et pour toutes les autres, sur l'évidence et sur la candeur de ses procédés, sur l'exactitude de ses calculs et sur la solidité de ses engagements. Nous pouvons, d'après ces points fondamentaux, prendre un aperçu du mérite et du talent de ceux qui, dans l'Assemblée nationale, se sont emparés de la conduite de ces intérêts épineux. Loin de trouver que le revenu public se soit accru dans leurs mains, nous voyons dans un rapport du Comité des finances fait par M. Vernier, le 2 août dernier, que le revenu national, comparé à ce qu'il était avant la Révolution, était alors diminué de 200 millions, ce qui est beaucoup plus que le tiers du total. Si c'est là le résultat d'une grande habileté, il faut convenir que jamais habileté ne s'est manifestée d'une manière plus remarquable ou n'a eu des effets plus puissants. L'inexpérience la plus grossière, l'incapacité la plus vulgaire, la négligence ministérielle la plus volontaire, le crime même le mieux combiné, ni la corruption, ni le péculat, ni même aucune des hostilités directes que nous avons vues dans le monde moderne, n'aurait pu, dans un espace de temps aussi court, opérer un bouleversement aussi complet dans les finances, ni mieux détruire en même temps la force publique d'un grand royaume. Cedo qui vestam rem publicam tantam amisistis tam quito. Dites-moi, comment avez-vous fait pour ruiner si vite une aussi puissante république que la vôtre ? Cicéron de la vieillesse. Dès l'ouverture de l'Assemblée, les sophistes et les déclamateurs commencèrent par décrier l'ancien système du revenu public dans plusieurs de ses branches les plus importantes, telles que le monopole public du sel. Ils l'accusèrent, avec raison mais avec imprudence, d'être mal imaginé, oppressif et partial. Ils ne se bornèrent pas à faire entrer ces observations dans les discours préliminaires de quelques plans de réforme, mais ils consignèrent cette déclaration, comme si elle était un jugement, dans un décret solennel rendu sur ce sujet, et ils le firent circuler dans tout le royaume. En même temps qu'ils rendaient ce décret, ils ordonnèrent, avec la même gravité, que l'on continuerait de payer cette même taxe qu'ils venaient de déclarer absurde, oppressive et partiale, jusqu'à ce qu'ils puissent en trouver une autre pour la remplacer. La conséquence était inévitable. Les provinces qui avaient été jusqu'à ce jour exemptes de la gabelle, dont quelques-unes supportaient d'autres contributions peut-être équivalentes, n'étaient nullement disposées à supporter aucune partie d'une charge qui, par une répartition égale, devait soulager les autres. Quant à l'Assemblée, absorbée comme elle l'était dans la déclaration et la violation des droits de l'homme, et dans tous ses plans pour établir une confusion générale, elle n'eut ni le loisir, ni le talent d'imaginer, ni l'autorité de donner de la force à aucun plan d'aucune espèce relatif au remplacement de cette taxe et à sa juste répartition, ni d'accorder aux provinces les compensations qu'elles réclamaient, ni de préparer leurs esprits à un plan d'arrangement avec les autres districts qu'il s'agissait de soulager. Le peuple des provinces sujettes à la gabelle, qui avait gémi longtemps sous le poids de cette taxe, maudite par l'autorité même de ceux qui le condamnaient à la payer encore, sentit bientôt toute sa patience épuisée. Il se crut aussi expert en démolition que l'Assemblée elle-même pouvait l'être. Il se soulagea en se débarrassant entièrement du fardeau et abolit la gabelle. Animé par cet exemple, dans tous les districts ou dans toutes leurs divisions, chacun devenant le juge de ses surcharges d'après ses impressions et de leurs remèdes d'après son opinion, fit tout ce qui lui plut à l'égard des autres impôts. Nous sommes parvenus au moment d'examiner comment ils se sont conduits pour déterminer l'égalité des impositions en proportion des moyens de chaque citoyen, et surtout pour faire en sorte de charger le moins possible cette partie active du capital qui est destinée et employée à créer la fortune des particuliers, de laquelle doit dériver ensuite la fortune publique. En accordant à tous les districts, et de plus aux individus dans chaque district, la liberté de juger de la partie du revenu public à laquelle il leur plairait de contribuer, ce ne sont pas de meilleurs principes d'égalité qu'on a vu éclore, mais une nouvelle inégalité des plus oppressives. Il n'y a plus eu d'autre règlement de paiement que la volonté. Les parties du royaume qui étaient les plus soumises, les mieux réglés, les plus attachés à la chose publique, supportaient tout le fardeau de l'État. Rien ne tourne plus à l'oppression et à l'injustice qu'un gouvernement faible. Que restait-il à un gouvernement sans autorité pour suppléer à la fois à la perte des anciennes impositions et à celles de toute nature auxquelles il fallait s'attendre? L'Assemblée nationale eut recours à un sacrifice volontaire, à une contribution du quart du revenu de tous les citoyens, en laissant à leur honneur seul le mérite de l'exactitude dans leur estimation. Elle obtint quelque chose de plus qu'elle ne pouvait raisonnablement l'espérer, mais la recette était loin de répondre à ses besoins réels et beaucoup moins encore à son attente. Des gens sensés auraient fondé peu d'espérance sur une taxe présentée ainsi sous la forme de la bienveillance. Taxe faible, sans effet et inégale. Taxe à laquelle peuvent se soustraire le luxe, l'avarice et l'intérêt personnel pour en jeter tout le fardeau sur les capitaux productifs, sur l'intégrité, sur la générosité et sur l'esprit public. Taxe réglementaire imposée sur la vertu. Le masque est à la fin tombé, et aujourd'hui ils sont occupés à chercher avec peu de succès les moyens d'arracher par la force le produit de ce qu'ils demandaient à titre de bienveillance. Cette bienveillance patriotique, cet enfant rachitique de leur faiblesse, devait être soutenue par une autre ressource, le frère jumeau de la même imbécilité prolifique. Les dons patriotiques devaient suppléer aux défauts de la contribution patriotique. John Doe devait servir de caution à Richard Roe. D'après ce plan, ils reçurent des objets qui avaient eu une grande valeur pour ceux qui les donnaient et qui n'en avaient qu'une bien faible pour ceux qui les recevaient. Ils ont ruiné plusieurs branches de commerce. Ils ont pillé les ornements de la couronne, l'argenterie des églises et enlevé au peuple ses ornements personnels. Ces inventions de tous ces jeunes prétendants à la liberté n'étaient réellement que des imitations serviles de l'une des plus misérables ressources d'un despotisme radoteur. Ils ont pris dans toutes les antiquailles de la friperie de Louis XIV une des plus vieilles perruques à grande chevelure pour couvrir le front déjà chauve de la jeune Assemblée nationale. Ils mirent en avant cette extravagante et vieille folie, quoiqu'elle eût été si complètement développée dans les mémoires du duc de Saint-Simon, et qui n'avait plus besoin d'aucune démonstration aux yeux des gens raisonnables. Je me rappelle que sous le règne de Louis XV, on fit une tentative du même genre, mais dans aucun temps elle n'a répondu à son objet. Cependant, les besoins occasionnés par des guerres ruineuses avaient pu servir de prétexte à ces projets désespérés. Les résolutions prises dans le malheur sont rarement le fruit de la sagesse. Mais maintenant, c'était la saison de l'ordre et de la prudence. C'est dans le temps d'une profonde paix, dont on jouissait depuis 5 ans, et qui promettait de durer beaucoup plus, que le désespoir les a fait recourir à ces bagatelles. Ils étaient assurés qu'en s'amusant, dans la situation sérieuse où ils étaient, avec tous ces colifichets et ces joujoux de la finance, dont les détails ont rempli plus de la moitié de leurs journaux, il en résulterait pour leur réputation un tort que le produit temporaire de toutes ces bagatelles ne pourrait jamais compenser. Pour adopter de pareilles mesures, il faut, ou qu'ils aient méconnu la position dans laquelle ils étaient, ou qu'ils fussent bien au-dessous de leurs besoins. Quel que soit au surplus la vertu de ces inventions, il est certain qu'on n'aura plus recours aux dons ni aux contributions patriotiques. Tous leurs plans de revenus publics se sont bornés à employer des ruses de toute espèce pour présenter l'apparence momentanée d'un grand réservoir bien rempli, tandis qu'en même temps, ils détruisaient les sources vives et toutes les fontaines abondantes qui devaient fournir aux revenus annuels. Le compte rendu par M. Necker, il n'y a pas longtemps, devait sans aucun doute être réputé favorable. Il présente un aperçu flatteur des moyens de suffire à l'année courante, mais il exprime, comme naturellement il devait le faire, quelques craintes pour celles qui devaient suivre. Au lieu de prendre en considération ce dernier pronostic de M. Necker, d'en examiner les bases et de recourir par avance à de sages précautions pour prévenir le danger dont on était menacé, M. Necker a reçu, par l'organe du président de l'Assemblée, une sorte de réprimande amicale. Quant à leurs autres plans d'imposition, il est impossible d'en parler avec quelque certitude, parce qu'ils n'ont pas encore été mis en action. Mais personne n'imaginera qu'ils puissent jamais remplir d'une manière sensible le vide immense que les revenus éprouvent par le fait de leur incapacité. Quant à présent, les espèces disparaissent chaque jour davantage de leur trésor public et ils regorgent de valeurs fictives. C'est dans une telle position, lorsque l'on ne peut trouver que du papier, soit au dehors, papier qui n'est pas le représentant de l'opulence mais de l'indigence, qui n'est pas le fruit du crédit mais le produit de la force, c'est alors qu'ils imaginent que nous devons à notre papier de banque en Angleterre la prospérité dont nous jouissons, et non que notre papier de banque la doit à l'effet de l'état florissant de notre commerce, à la solidité de notre crédit et à l'absence totale de toute idée de l'intervention du pouvoir dans toutes ces opérations. Ils oublient qu'en Angleterre, ne fût-ce que pour un shilling, l'on n'y recevrait que volontairement le papier-monnaie, que tout celui que nous avons n'est que la valeur représentative de sommes réelles existantes en argent et déposées en nature, qu'on peut le convertir encore en argent sans la moindre perte à sa volonté et à la minute. Notre papier a une valeur dans le commerce parce qu'il n'en a aucune aux yeux de la loi. Il est tout-puissant à la bourse parce qu'il est sans force à la salle de Westminster. Un créancier peut refuser d'accepter en paiement pour une dette de 20 shillings, tout le papier de la Banque d'Angleterre. Jamais parmi nous, aucune sûreté publique quelconque, et de quelque nature qu'elle soit, ne nous est présentée de force par l'autorité. Dans le fait, il serait aisé de démontrer que l'abondance de notre papier-monnaie, au lieu de diminuer le nombre de nos espèces métalliques, tend à l'augmenter, qu'au lieu d'être un supplément à l'argent, il en facilite l'entrée, la sortie et la circulation, qu'il est le symbole de la prospérité et non le signal de la détresse. Jamais dans ce pays, la disette du numéraire ou l'abondance du papier n'a été un sujet de plainte. À la bonne heure, me dira-t-on, mais du moins le retranchement des dépenses prodigues et l'économie qui a été établie par une sage et vertueuse assemblée compenseront les pertes éprouvées dans la perception des revenus. Dans ceci, du moins, ils ont rempli les devoirs du financier. Ceux qui parlent ainsi ont-ils donné quelque attention aux dépenses de l'Assemblée nationale elle-même, des municipalités, de la ville de Paris, à l'augmentation de la paie des deux armées, de la nouvelle police, des nouveaux tribunaux judiciaires? Ont-ils même exactement comparé la liste actuelle des pensions avec l'ancienne? Tous ces politiques ont été cruelles et non pas économes. En comparant les dépenses de cet ancien gouvernement prodigue et leur proportion avec les revenus d'alors, avec les dépenses de ce nouveau système de gouvernement en opposition avec l'état de son nouveau trésor, je crois que le gouvernement actuel est, au-delà de toute comparaison, beaucoup plus coûteux. Je n'ai plus à examiner que les preuves du talent financier que les faiseurs français ont donné lorsqu'ils avaient à suppléer au crédit. Ici, je suis un peu embarrassé, car de crédit, ils n'en ont point à proprement parler. Celui de l'ancien gouvernement n'était assurément pas le meilleur. Mais il pouvait toujours, d'une manière ou d'une autre, attirer à lui quelque argent, sinon celui de son propre pays, du moins celui de beaucoup de contrées de l'Europe, où l'on avait des capitaux accumulés. Et le crédit de ce gouvernement s'était journellement augmenté. L'on devait supposer que l'établissement d'un système de liberté lui procurerait une nouvelle force. Et cet effet aurait été certain si l'on eût établi un système de liberté. Quelles offres ce prétendu gouvernement libre a-t-il reçues de la Hollande, de Hambourg, de la Suisse, de Genève et de l'Angleterre pour acheter de son papier? Pourquoi ces nations économes et commerçantes entreraient-elles dans un commerce d'argent avec un peuple qui s'efforce de renverser la nature des choses, chez qui l'on voit le débiteur prescrire à son créancier la baïonnette sur l'estomac, le moyen dont il veut s'acquitter avec lui, qui se libère d'un engagement par un autre, qui se fait une ressource de sa pénurie et qui solde ses intérêts avec ses chiffons. Leur confiance fanatique dans le pillage de l'Église a détourné ces philosophes de tous les autres soins qu'ils auraient pu donner à la chose publique. De même que le rêve de la pierre philosophale entraîne ceux qui se laissent séduire par les illusions de la philosophie hermétique à négliger tous les moyens raisonnables d'augmenter leur fortune. Ces philosophes financiers ont cru qu'ils guériraient tous les maux de l'État au moyen d'un remède universel composé avec la momie de l'Église. Ces messieurs, peut-être, ne croient pas beaucoup au miracle de la piété, mais on ne peut pas douter qu'ils n'aient une foi imperturbable au prodige du sacrilège. Sont-ils pressés par une dette, émission d'assignats? Ont-ils à rembourser ceux qu'ils ont ou volés ou dépouillés de leurs charges? Des assignats. Faut-il armer une flotte? Des assignats. Si 16 millions sterling de ces assignats répandus dans le public ne suffisent pas pour satisfaire aux nécessités de l'État, devenues plus pressantes que jamais, faites, dit l'un, une émission de 30 millions sterling d'assignats. Faites-en pour 80 millions de plus, dit un autre. La seule différence qu'il y ait entre ces factions financières n'est que dans la quantité plus ou moins grande d'assignats dont il faut accabler le public souffrant. Tous sont des prédicateurs d'assignats. Ceux même dont le bon sens naturel et la connaissance du commerce, non égarés par la philosophie, fournissent des arguments décisifs contre cette tromperie, les terminent par proposer une émission d'assignats. Je suppose qu'ils ne parlent d'assignats que parce que, sans cela, leur langage ne serait pas compris. Ils ont beau éprouver l'inefficacité de leurs moyens, cela ne les dérange nullement. Les anciens assignats sont-ils tout à fait décriés sur la place? Quel est le remède? Émission d'assignats tout neuf. Mais si maladia opiniatria non vult se guarire, quid ille facere? Assignare, postea assignare, ensuita assignare. J'ai un peu altéré mon texte. Le latin de vos docteurs actuels peut être meilleur que celui de votre ancienne comédie, mais leur sagesse et la variété de leurs ressources sont égales. Ils n'ont pas plus de notes dans leur chant que le coucou, quoique loin d'avoir le moelleux du gosier de ce précurseur de l'été et de l'abondance. Leur voix est aussi rauque, aussi désagréable que celle du corbeau. Excepté des aventuriers désespérés en philosophie et en finance, qui pouvait avoir l'idée de détruire le revenu fixe de l'État, la seule sûreté du crédit public, dans l'espérance de le rétablir avec les matériaux de la propriété confisquée? Si cependant un pieux et vénérable prélat, un saint-père de l'Église par anticipation, emporté par un zèle excessif pour l'État, était entraîné à piller son propre ordre, et pour le bien de l'Église et du peuple, à se charger de remplir la place de grand financier de la confiscation et de contrôleur général du sacrilège, il faudrait, à mon avis, que lui et ses coadjuteurs montrassent dans leur conduite subséquente qu'ils connaissent quelque chose aux fonctions dont ils se sont emparés. Après avoir pris la résolution d'approprier au fisc une certaine portion des propriétés territoriales de leur patrie conquises par eux, leur devoir était de procurer à la banque un fonds réel de crédit, autant du moins qu'une telle banque pouvait être capable d'en avoir un. On a regardé jusqu'à présent comme au moins très difficile d'établir sur une banque territoriale, dans une circonstance quelconque, une grande circulation de crédit. Les efforts faits à cet égard ont communément fini par une banqueroute. Mais lorsque l'Assemblée, au mépris de la morale, fut conduite à braver ainsi les principes de l'économie politique, on aurait dû s'attendre, au moins, qu'elle ne négligerait rien de tout ce qui dépendrait d'elle pour diminuer les difficultés qu'elle rencontrerait pour empêcher que les effets de la banqueroute ne fussent aussi funestes. On aurait dû s'attendre que pour rendre votre banque territoriale supportable, vous auriez adopté tous les moyens propres à mettre en évidence votre candeur et votre loyauté dans l'établissement du gage que vous offririez, tout ce qui eût aidé au recouvrement de la demande. À envisager les choses sous leur meilleur point de vue, votre condition était celle d'un homme qui aurait eu une grande propriété foncière dont il aurait souhaité de se défaire pour acquitter une dette et pour remplir quelques obligations. Ne trouvant pas à vendre pour le moment, vous désiriez l'hypothéquer. Que ferait, en semblable occasion, un homme dont les intentions seraient pures et d'une intelligence ordinaire? Ne devrait-il pas auparavant commencer par fixer en gros la valeur de ses biens, déterminer les frais de leur administration, les charges perpétuelles ou momentanées dont il serait grevé, et enfin, déduisant le plus net, calculer la juste valeur de l'hypothèque. Après avoir ainsi clairement déterminé ce surplus, le seul gage du créancier, et l'avoir valablement déposé dans les mains de ses gardiens, alors il pourrait indiquer les portions qu'il veut vendre, le temps et les conditions du marché. Ensuite, si cela lui convenait, admettre le créancier public à engager ses capitaux dans ce nouveau fonds, ou bien recevoir des propositions d'un assignat général de la part de ceux qui avanceraient de l'argent pour acheter cette espèce de gage. Ce serait là procéder comme les hommes du métier, méthodiquement et raisonnablement, et d'après les seuls principes publics ou privés qui peuvent donner de l'existence au crédit. L'acquéreur connaîtrait alors exactement ce qu'il achèterait, et son esprit ne pourrait plus être tourmenté que par un seul doute, la crainte que quelque jour on ne retirât, et peut-être en y ajoutant une punition, des sacrilèges mains de tous ces êtres exécrables qui osèrent devenir des enchérisseurs à l'encan les biens de leurs concitoyens innocents. Ce n'aurait été qu'en établissant, d'une manière aussi ouverte et aussi franche, la valeur nette de ses propriétés, le temps, les circonstances et le lieu de la vente, que l'on aurait pu effacer, autant que faire se peut, les signes d'infamie attachés jusqu'à présent aux banques territoriales de toute espèce. Il devenait nécessaire, d'après un autre principe, c'est-à-dire à raison du gage de la foi déjà contracté à ce sujet, qu'il fisse juger par la manière dont il le remplirait, de la fidélité avec laquelle il se conduirait à l'avenir dans un pas si glissant. Lorsqu'ils eurent enfin décidé de faire pour l'État une ressource du pillage de l'Église, ils prirent cette résolution solennelle le 14 avril 1790 et s'offrirent comme gage envers leur propre patrie. Et il fut arrêté, que dans les charges publiques de chaque année, on passerait en compte, pour défrayer les dépenses du culte de la religion, pour l'entretien des ministres des hôtels, pour le soulagement du pauvre, pour les pensions des ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de l'un ou de l'autre sexe, afin que les biens et les richesses qui sont à la disposition de la nation puissent être libérés de toutes leurs charges et employés par les représentants du corps législatif aux grandes et urgentes nécessités de l'État. Fin de citation. Ils décidèrent plus tard, le même jour, que les sommes nécessaires pour l'année 1791 seraient très incessamment déterminées. Ils conviennent, dans cette résolution, qu'il est de leur devoir de faire connaître distinctement la dépense des objets ci-dessus. Et dans des résolutions précédentes, ils s'étaient déjà engagés à les classer au premier rang dans l'ordre des charges publiques. Ils conviennent qu'ils devaient libérer ces biens de toutes leurs charges et que leur devoir était de le faire immédiatement. Ont-ils immédiatement rempli cet engagement, ou l'ont-ils jamais rempli? Ont-ils jamais fourni un état des rentes des propriétés foncières, ou remis un inventaire de tous les meubles qu'ils avaient confisqués au profit de leurs assignats? Je laisse à ceux qui les admirent en Angleterre le soin d'expliquer comment ils ont pu remplir cet engagement solennel d'offrir au public des biens libérés de toute charge, sans donner la valeur de ces biens ni celle des charges dont ils étaient grevés. Mais au même instant, sur cette simple assurance, sur le crédit d'une aussi belle déclaration, et préalablement à toute démarche pour la justifier, ils font une émission de 16 millions sterling de leur papier-monnaie. Cela était courageux. Qui pourrait, après un tel coup de maître, douter de leur habileté en finance? Mais avant de faire aucune émission de ces indulgences financières, au moins ils auront soin d'acquitter leurs promesses originaires. Si l'on a fait une estimation de ces biens ou du montant de leurs charges, cela m'est échappé. Je n'en ai jamais entendu parler. Ils ont fini par parler hautement et ont dévoilé entièrement leur abominable fraude en consacrant les terres de l'Église comme une hypothèque pour toute dette ou service quelconque. Ils ne volent que pour se donner les moyens de frauder. Mais bientôt après, ils détruisent eux-mêmes le double but de leur vol et de leur fraude, en proposant, à l'occasion d'autres objets, des calculs qui font évanouir tout l'apparat de la force et de l'erreur. C'est à M. de Calonne que j'ai l'obligation des documents qui prouvent ce fait extraordinaire. il m'était en quelque façon échappé. Je n'avais assurément pas besoin de mettre en avant mon assertion sur la violation de l'engagement qu'ils avaient pris dans leur déclaration du 14 avril 1790. Il paraît aujourd'hui, par un rapport de leur comité, que la dépense du soutien de l'établissement religieux, tout réduit qu'il est, que celles qui seront relatives à la religion, à l'entretien des religieux des deux sexes, réunis ou pensionnés séparément, à toutes les autres dépenses de la même nature, qui retombent sur eux par la convulsion violente qu'ils ont excitée dans ces propriétés, que tout cela enfin excède, de la somme énorme de 2 millions sterling par an, les revenus des biens qu'ils ont envahis, outre une dette de 7 millions et au-delà. Voilà la force des calculs de l'imposture. Voilà la finance de la philosophie. Voilà le résultat de tous les artifices que l'on a mis en avant pour engager un malheureux peuple dans la rébellion, dans le sacrilège et le meurtre, et pour le rendre l'instrument prompt et zélé de la ruine de son pays. Jamais un État, dans aucun cas, ne s'est enrichi par la confiscation des biens des citoyens. Cette nouvelle épreuve a réussi comme le reste. Quiconque a l'âme honnête, tous ceux qui aiment véritablement la liberté et l'humanité, doivent se réjouir de voir que l'injustice n'est pas toujours une bonne politique, ni la rapine le grand chemin des richesses. Je me fais un plaisir de joindre ici en note les observations judicieuses de M. de Calonne sur ce sujet. Note. Ce n'est point à l'Assemblée entière que je parle ici. Je ne parle qu'à ceux qui l'égarent en lui cachant, sous des gazes séduisantes, le but où il l'entraîne. C'est à eux que je dis, votre objet, vous n'en disconviendrez pas, c'est d'ôter tout espoir au clergé et de consommer sa ruine. C'est là, en ne vous soupçonnant d'aucune combinaison de cupidité, d'aucun regard sur le jeu des effets publics, c'est là ce qu'on doit croire que vous avez eu en vue dans la terrible opération que vous proposez. C'est ce qui doit en être le fruit. Mais le peuple que vous y intéressez, quel avantage peut-il y trouver? En vous servant sans cesse de lui, que faites-vous pour lui? Rien, absolument rien. Et au contraire, vous faites ce qui ne conduit qu'à l'accabler de nouvelles charges. Vous avez rejeté, à son préjudice, une offre de 400 millions dont l'acceptation pouvait devenir un moyen de soulagement en sa faveur. Et à cette ressource aussi profitable que légitime, vous avez substitué une injustice ruineuse qui, de votre propre aveu, charge le trésor public et par conséquent le peuple d'un surcroît de dépenses annuelles de 50 millions au moins et d'un remboursement de 150 millions. Malheureux peuple! Voilà ce que vaut, en dernier résultat, l'expropriation de l'Église et la dureté des décrets taxateurs du traitement des ministres d'une religion bienfaisante. Et désormais, ils seront à votre charge. Leur charité soulager les pauvres, et vous allez être imposés pour subvenir à leur entretien. De l'État de la France, page 81. Voyez aussi page 92 suivante. Fin de la note.